et vogue le navire. Une émission réalisée et présentée par Sylvie Caquet. Évoque le navire, une émission de l'Agence régionale du spectacle vivant.
Bonjour à tous. Commençons cette émission par un peu d'histoire politique. En 1979, le Shah d'Iran est renversé par la révolution islamique, proclamée par l'ayatollah Khomeini. Un an plus tard, Khomeini appelle les Irakiens à renverser le régime de Saddam Hussein. Ce dernier, redoutant l'ascension de Khomeini dans le monde musulman, attaque l'Iran en septembre 1980. La première guerre du Golfe est déclarée, elle durera 8 ans. C'est dans ce contexte que Fardine Mortazavi arrive en France, en 1984. Il laisse derrière lui un pays, l'Iran, qu'il ne reverra que bien des années plus tard. Fardine Mortazavi est l'exemple vivant qu'il y a plusieurs vies dans une vie, puisqu'après avoir été ingénieur agroalimentaire, il vit aujourd'hui de son art, la musique. Il joue des tambours persans, le tombak et le daf en particulier, qu'il enseigne à de nombreux passionnés. Il est aussi marionnettiste et musicologue-chercheur à l'Université de Poitiers. Il peut vous parler pendant des heures du lien entre la poésie et le rythme, qui est son principal terme de recherche. Après s'être formé en musique auprès des maîtres iraniens, dans son pays, puis en France, il apprend en région la danse avec la chorégraphe Régine Chopineau, le théâtre avec le comédien marionnettiste Livio Jamet et le metteur en scène Jean-Luc Pérignac. Fardine Mortazavi est l'invité d'Évoque le navire cette semaine. Bonjour Fardine.
Bonjour Sylvie.
Pour être très juste, ce n'est pas comme musicien qu'il faudrait vous présenter, mais comme rythmicien, car le rythme, dans la musique, c'est ce qui vous passionne.
Oui, ce qui me passionne. Mais je ne sais pas si je peux en faire un métier, c'est ça. Puisque, en fin de compte, le rythme, c'est la partie invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit. Mais, donc, ça ne peut pas être une matière qui peut servir de métier professionnel, je pense. Bien sûr, mais je ne me considère pas non plus musicien dans un autre sens. J'ai un peu travaillé dans plusieurs disciplines, comédienne, marionnettiste, le rythme, la musique. Je m'intéresse un peu à peut-être quelque chose d'invisible derrière de tous ces univers.
Pour revenir au rythme, vous utilisez des motifs rythmiques qui sont ici du répertoire classique, qui sont aussi inspirés des poèmes que vous utilisez.
Oui, effectivement, je travaille sur deux sortes de modèles rythmiques. D'abord, les motifs rythmiques qui sont très riches, puisqu'ils sont, que ce soit en Orient ou ici en Occident, ils viennent de très loin. Donc, il y a le poids de l'expérience et du savoir, on va dire même millénaire, sans exagérer, qui se cumule dans ces rythmes. Puisque le rythme, c'est des motifs rythmiques, c'est une sorte de combinaison de différents éléments. Mais la question, c'est quelle combinaison apporte une esthétique plus intéressante que l'autre. C'est pourquoi il reste toujours intéressant, les motifs rythmiques. Mais un domaine qui me passionne beaucoup, c'est les rythmes qui sont cachés dans les poèmes. Donc, je compare la poésie classique aux motifs rythmiques qu'on connaît en général, mais plutôt les rythmes cachés dans la poésie en prose, où la structure rimée n'est pas aussi claire, mais on perçoit une musicalité à l'intérieur, une rythmicité à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a des poèmes qui sont plus illustratifs de ça que d'autres ?
Oui, je peux... Par exemple, on peut parler... Par exemple, en français, de Beckett, par exemple, oui. elles viennent autres et pareilles. Je ne me souviens pas très bien de l'ensemble du poème. Mais les poètes qui ont travaillé dans ce domaine, donc ils sont nombreux en France, dans toutes ces nouvelles vagues. Mais je travaille essentiellement sur les poésies en prose iranienne. Deux poètes m'ont beaucoup marqué, plutôt trois. Ahmad Shamlou, qui est un des plus grands poètes iraniens, mais qui est reconnu aussi, qui était candidat au prix Nobel de la littérature, qui est décédé il y a quelques années. Ayatollah Royaï, qui est depuis pas mal de temps, il vit à Paris. Donc il a beaucoup d'ouvrages édités en France. Et Sohrab Seberi, certains de ses poèmes sont édités ici en France.
C'est des poèmes que vous allez choisir à cause de leur rythme, c'est ça, plus que et de leur musicalité en quelque sorte, plus que le contenu et le sens.
Oui et non, puisque j'introduirai un autre concept, un autre mot, ce qu'on appelle la musicalité spirituelle, qui émane du sens des mots. C'est-à-dire comment le poète a cette habilité, ce savoir à transformer, à toucher cette matière de sens avec la matière littéraire et produire quelque chose qui présente une musicalité.
Ce sont des poèmes que vous interprétez vous-même en même temps que vous jouez du tombak et vous jouez du daf.
Tout à fait, tout à fait. Et dans ce dernier spectacle, Tambetan, je l'interprète aussi corporellement. Je ne suis pas chorégraphe ni danseur, mais quelque chose, une matière sur... Je travaille sur cette rythmicité, cette musicalité qui émane de ce poème. C'est un poème de Ayatollah Royaï, Tambetan. Je crée des liens avec le corps. J'essaie de trouver. En même temps, c'est une matière de recherche pour moi. Ensuite, je vais vers les instruments pour créer des liens entre dans une sorte de laboratoire.
Par exemple, vous pourriez nous dire deux, trois phrases d'un poème que vous aimez particulièrement bien ?
Je pourrais dire... voilà un poème de Ahmad Chamlou.
Et puis après, vous nous le traduirez.
Voilà.
Allez-y.
آیا نه یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد؟ من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم، صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم، من بودم و شدم، نه زنگونه که قنچه ای گلی ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی راست بدانگونه که عالی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد.
Quand vous dites ce poème, vous avez l'air complètement transporté.
Je m'en enivre. Je m'en enivre. Je pense derrière toutes ces parties, même derrière artistique ou même la vie, il y a l'univers poétique qui ne se présente pas qu'à travers les mots.
Et par exemple, celui-ci. Dites-nous un petit peu.
Très rapidement. Est-ce qu'un nom, un seul nom, était suffisant pour dessiner mon destin ? J'ai juste crié « non ». Je n'étais pas un bourgeon devenu fleur ou un arbre forêt. J'étais un homme vertical. Je ne voulais pas de ce Dieu devant lequel il faut se prosterner. Alors j'ai inventé un autre Dieu. Et à la fin du poème, je n'ai pas tout lu, il dit « Mais ni Dieu ni diable qui ont décidé sur ton destin. Ton destin a été décidé par une idole adorée par les autres. Une idole adorée par ses autres. »
C'est une traduction que vous avez faite vous-même à partir du poème iranien.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais.
Vous avez publié un certain nombre de recueils de poèmes que vous avez traduits vous-même.
Un travail que j'avais fait avec Granaz Moussavi, une poétesse, et une peintre, Anne Pelletier. On a édité dans un petit livre sur un poème, la chanson d'une femme... Et sans voix qui, voilà, on a traduit avec comment dire, avec des dessins aussi, qui étaient accompagnés de dessins. Et c'est un domaine qui me passionne, la traduction du poème. Si on peut dire que même les poèmes traduits ont induit, ont provoqué des étincelles pour le début de la poésie en prose, puisque les phrases n'étaient pas de la même longueur. Mais c'est quelque chose de presque impossible de traduire un poème, puisqu'on touche à la matière essentielle et c'est très difficile de retrouver aussi bien la musicalité et le sens et à obtenir le même résultat dans la langue originelle. Mais malgré tout, j'y consacre beaucoup de temps.
Et vous en écrivez vous-même?
Oui. Des petits, oui, de certains poèmes.
Qu'on peut écouter aussi à l'occasion d'un concert, peut-être.
Peut-être.
C'est pas sûr du tout.
Pour l'instant, c'est très, voilà, c'est pour l'instant, ça reste dans
C'est
l'intimité,
ça,
voilà.
d'accord.
Mais un des projets, ce qu'il demande, c'est une sorte de j'ai été encouragé par une traductrice qui travaille entre l'Iran et la France, Maniger Nouri Ortega, qui me poussait à traduire, par exemple, sur certains thèmes, choisir des poèmes iraniens pour les faire connaître.
Fardine Mortazavi, vous êtes venu dans cette émission avec vos deux instruments de prédilection, c'est le tombak et le daf.
Oui.
On va vous écouter en jouer.
D'accord.
Et en fait, vous allez nous les présenter pour commencer. Le tombak, donc c'est un instrument très ancien.
Oui. On pourrait dire que ça remonte à il y a 2000 ans, les premières traces de cet instrument. Après, on trouve des miniatures des époques plus récentes, de 13-14e siècle, où dans la poésie, on voit le mot de cet instrument qui vient, qui peut être tombak. Ça peut être l'origine rhombak, rhom étant comme une jarre où on mettait du vin à l'intérieur. Et quand on voit la forme calcique de cet instrument, on peut imaginer une jarre à l'envers
Voilà, c'est ça, avec une peau qui le
qui
recouvre.
recouvre le fond de cette jarre.
En fait, c'est un autre nom pour cet instrument, c'est le zarb.
Zarb, tout à fait. Zarb, ça a été introduit ce mot en Europe par Djamchid Chemirani, qui était un des grands maîtres, qui est un des grands maîtres de cet instrument. Mais à une époque, le tombak était devenu très péjoratif. C'était quelqu'un, on allait dans les agences de la joie, on allait embaucher pour les mariages ou d'autres cérémonies. Un tombaki et une danseuse, donc on faisait une petite fête, donc ils étaient là pour amuser juste. Donc pour réintroduire cet instrument dans la musique savante iranienne, on a renommé, on a dit zarb, qui est un mot arabe qui veut dire la frappe. Tandis que le tombak, c'est le mot originel. Mais bon, les deux sont utilisés actuellement.
C'est un instrument que vous posez sur votre genou.
Tout à fait. Et la main gauche s'oppose sous le tronc, à gauche du centre du tronc, et la main droite, avec un poignet très libre, frappe et effleure la peau. C'est un jeu très très digital. Tous les doigts sont utilisés. Comme beaucoup de disciplines différentes, de la danse flamenco jusqu'à la pratique de tous les instruments, la peinture. L'agilité des poignets est très importante. Le secret est dans cette partie-là. Et une des frappes les plus difficiles, c'est demanderait un lâcher-prise très important. Voilà. Un lâcher-prise, c'est complètement dans une détente totale, mais avec une petite prise. C'est le roulement de cet instrument avec les 10 doigts qui frappent séparément chacun à un moment donné. C'est-à-dire quand un batteur fait
avec ses baguettes.
Ses baguettes, par exemple, 20 fois, on va dire, sur 10 secondes. Moi, je fais 20 fois 4, puisque j'utilise 8 doigts pour le même mouvement. Donc, mais pour ça, il faut un lâcher-prise.
Alors, on va vous écouter maintenant. Oui. Je fais du tombak.
Sahar naul sar kon daugh-e mara tazetar kon zauh-e sharar bad nin ghafas ra bar shekan o
le navire.
Merci Fardin Mortazavi pour ce premier morceau que vous venez de nous interpréter avec votre tombak en direct dans le studio des Vogue le navire. Le tombak, c'est un instrument qui paraît très simple de présentation et en fait je pense qu'il doit être assez complexe à jouer.
Oui, il y a des techniques, des frappes très complexes avec tous les doigts qui sont développés. Essentiellement depuis 70 ans à peu près. Donc dans un sens, c'est un instrument qui est récent, qui est moderne.
Qui s'est complexifié en fait avec le temps, parce qu'autrefois on en avait une autre pratique, on en jouait différemment.
Les enregistrements que nous avons du début du siècle dernier, 1900 et quelques, l'instrument était joué très simplement, avec des tomes et Ta et Ka. Et c'est dans les années 50 qu'un maître téhérani, un certain maître téhérani, qui était le maître de Jamshid Shemirani...
qui est le papa hein, des deux fils Shemirani.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Qui a, comment dire, fait un travail de collecte de différents rythmes et différentes pratiques et qui, avec la collaboration d'un musicien, maître Saba, ils ont rendu plus complexes les frappes. Ils ont fait évoluer, vraiment révolutionner la pratique de cet instrument. Donc, mais on ne sait pas comment ça se joue au XVe siècle, cet instrument.
Vous-même, vous l'avez appris d'abord avec des maîtres iraniens en Iran.
Oui, tout à fait. J'ai commencé en Iran. Un des premiers maîtres, c'est quelqu'un qui était de la famille proche aussi. J'ai travaillé donc les instruments tels que le santour, c'est une sorte de piano iranien qui se joue avec des baguettes très fines, le tombak, quelques approches et un peu la pratique du chant. Ensuite, après mon voyage en France, pendant un moment, je gérais. Donc, j'ai pu rencontrer Majid Khalaj, qui est à Paris, auprès de qui j'ai continué à travailler la pratique du tombak et de daf pendant des longues années. Par la suite, quand j'ai pu rentrer en Iran, j'ai pu reprendre contact avec mes anciens maîtres, Kabu Samandar, pratiquer le kamanche, c'est une sorte de violon iranien qui se joue d'une manière verticale sur les genoux, avec Ali Akbar Shekarchi. J'ai aussi profité de quelques cours de Jamshid Shemirani. J'ai pu aller dans le sud, aller le rencontrer et profiter de son savoir. Ouais. Mais dans tout, je me considère pas comme un représentant de la musique iranienne. J'ai appris des choses, j'essaie de les transmettre, mais je pense que ce que je présente, je ne peux pas être le représentant de cette musique, mais c'est qui je suis, c'est-à-dire à moitié iranien et à moitié français, et en même temps ni l'un ni l'autre.
C'est-à-dire que vous vous inspirez de cette tradition iranienne, mais en même temps, vous vous en émancipez pour créer votre propre langage.
Tout à fait. Et dans ces recherches, donc, c'est pourquoi ce que m'a apporté Régine Chopineau était très précieux.
Mais chorégraphe.
Chorégraphe.
De la Rochelle.
À La Rochelle. Livio Jamais m'a beaucoup apporté. Là, ces temps-ci, sur le travail de la voix, je profite beaucoup de l'enseignement de Martine Lecomte à l'école Arcadie. À Poitiers, où je commençais à enseigner à partir de cette année aussi. Et aussi, quelque chose qui est connu, c'est la technique de voix théâtrale de Royart Theater, qui sont installés dans le Cévennes et à Paris, et Pan Théâtre. Donc, je suis un peu... Toutes ces formations-là pour déplacer des cantonais comme dans... Pour moi, un mot et maître de tout ça, c'est la plasticité, le mot qui est utilisé par les peintres aussi. C'est toutes ces techniques qui permettent d'avoir des effets d'aller-retour et de plasticité de matière. Donc tout, je considère tout, comment on peut les transformer, comme l'argile, comment on reçoit quelque chose par la transmission. Il faut bien respecter tous les secrets cachés à l'intérieur, mais à nous, avant de transmettre, de tenter, d'essayer de voir les limites, les fonctions et les matières, la nature, découvrir par nous-mêmes avant de le retransmettre.
Et vous êtes dirigé vers le DAF, mais oui. Plus tard. Vous l'avez découvert comment cet instrument? C'est un instrument traditionnel aussi,
qui est très joué par les femmes, puisque parfois on peut entendre les graines de riz dans le plateau qui se nettoie.
Oui, c'est un tambour en fait.
C'est un grand tambour de 50-60 cm de diamètre, et on en trouve dans beaucoup de pays dans le monde, comme Baudran en Europe, comme Dif ou Bindir en Afrique du Nord. Mais la particularité de ce tambour iranien, c'est la présence des anneaux à l'intérieur, oui, qui s'entrechoquent, qui frottent contre la peau, qui produit des effets secondaires. Et cet instrument est très utilisé aussi par apprécié dans les cérémonies des derviches, dans le monde des soufis. On récite des poèmes, on fait des rythmes très très longs et on commence à jouer voilà, pendant 5-6 heures de suite. Donc c'est un instrument qui peut amener, chaque fois qu'on le pratique, on est transformé aussi.
Une espèce de transe.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, si vous voulez bien, on va vous écouter en jouer.
D'accord.
On vous a écouté tout à l'heure réciter un poème ou c'était un chant
C'était un chant de...
Avec le tombak.
Avec le tombak, c'était à l'époque de la révolution constitutionnelle iranienne. C'est un grand poète démocrate qui s'appelle Bahor, qui est le nom de ce poète. Et c'était le chant qui demandait à l'oiseau de l'aube de briser sa cage et de chanter l'hymne de la liberté. Donc c'était une demande, c'était une requête auprès de cet oiseau. Et là, je vais interpréter un poème donc, ancien qui s'était quelqu'un qui est maintenant qui n'est plus là, qui est interprété par Seyed Khalil Ali-Nejad, hein, qui s'appelle Ashke Pardedar. Ça veut dire la larme qui déchire le rideau. Harsam ke ashk dar ghamemo در غم ما پرده در شود این راز سر به مهر به عالم سمر شود ترسم که عشق در غم ما پرده در شود We'll be right back.
vogue le navire.
Merci Fardine Mortazavi pour ce morceau que vous venez de nous interpréter avec votre DAF en direct dans le studio des Vogue le Navire. Fardine, j'aimerais que vous nous racontiez votre histoire, car elle est singulière. Elle commence en Iran, où vous êtes née.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis, en 1960, bon, voilà, une vie de petit garçon, j'imagine.
Oui, très... oui, donc avec beaucoup de changements de ville, j'ai fini, donc je suis né près de la frontière kurde. Mon père était militaire, de pourquoi on changeait souvent de ville. Mais après le décès de mon père, on est venu, quelques années plus tard, s'installer à Téhéran. Donc, j'ai fait mes études à Téhéran. Et donc, j'ai participé à la révolution iranienne.
Là, en 79.
En 79, tout à fait. Comme je le raconte ça un peu comme sous forme d'un rêve dans ce dernier spectacle.
Oui, c'est ça. Vous racontez votre histoire dans un spectacle.
Hein? Oui, c'est ça.
Tanbetan.
Tanbetan, oui. En fin de compte, c'est le rêve d'un troubadour qui raconte à sa fille cette traversée de la révolution, même depuis la découverte du puits de pétrole en 1855 en Iran, ce qui a provoqué le regard de beaucoup de gens et de pays sur ce pays, jusqu'à nos jours, ici en France. Donc j'ai vécu la révolution iranienne parce que je devais traverser l'université de Téhéran pour aller à mon lycée. Donc c'est au cœur de cette révolution. Ensuite,
C'est-à-dire qu'à l'époque vous étiez derrière l'ayatollah Khomeini, vous souteniez.
C'est pas aussi, aussi net et clivé qu'on peut le croire, c'est-à-dire selon les images médiatiques. Et quand il y avait la révolution iranienne, il y avait cette image qui est venue très fortement de France, Neuf le Château, puisque Ayatollah Khomeini était ici en France. Et en Iran, c'était un mouvement avant tout, comme je le compte aussi, il manquait de l'air. Et on avait besoin de la lumière. On avait envie de penser ailleurs, autre chose. C'était ça qui était le motivation initiale de cette révolution. Et après, malheureusement, c'est un peu comme chaque fois, ça n'a duré qu'un an. Vous en avez parlé au début de l'émission. Je mettrais un bémol. C'est que un an après, ça s'adormissait avec le soutien du monde entier qui attaque.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que ce soit la Russie, l'Amérique, l'Europe ou les pays du Golfe, tout le monde était derrière Saddam Hussein, ce qui a provoqué, qui a complètement pulvérisé cette démarche démocratique que notre pays avait pris en ses mains en 1979. Beaucoup plus en avant, c'était en 1953, si je ne me trompe pas, Mossadegh, un premier ministre démocrate iranien, il a nationalisé le pétrole iranien et ça n'a duré qu'un an encore. La CIA a fait un coup d'État et a fait retourner le chat. Donc, tout ça, je le trouve lié au pétrole. Sont rentrés dans les discussions politiques.
Et pourquoi êtes-vous obligé de partir en 1984? Vous avez 20 ans.
J'ai eu 20 ans. J'avais un peu participé au mouvement de résistance de la guerre, mais une implication plus importante dans des mouvements militaires après au front de la guerre et autres, quelque chose qui ne m'inspirait pas à cette époque-là. Donc j'ai préféré, même si je le regrettais beaucoup la première année, ce que j'avais mis derrière moi, j'avais même envie de retourner. Je suis parti d'Iran pour pouvoir faire des études et apporter autre chose que mon sang à ce pays.
Une fois en France, en fait, vous faites une formation dans l'agroalimentaire pour devenir ingénieur.
Oui. C'était encore, c'est un cheminement. D'abord, mon rêve initial, c'était de devenir médecin. Mais ici, c'était plus simple d'aller vers des filières plus pragmatiques. Donc, je suis allé dans cette voie. Et ça m'a toujours passionné, ça me passionne toujours. C'est-à-dire, c'est la biologie, c'est la matière vivante. C'est, encore, il y a la plasticité à l'intérieur. Il y a des... Donc, j'étais pendant toutes ces années, 17 années, j'ai travaillé 17 années à l'intérieur. Donc, j'étais à la base de la création d'un centre de recherche et ensuite sa direction. Et puis, auprès du ministère de la Recherche, j'ai travaillé toujours dans le monde de la recherche. Dans un sens, pour moi, ça n'a pas changé.
Oui,
les matières ont changé. Je ne travaille plus sur les arômes, mais je travaille sur les poésies, les matières sonores.
Et qu'est-ce qui vous a fait, à un moment donné, basculer vers la musique ?
On va dire, il y a certains... j'ai pu avoir un minimum de confort de vie et aussi, peut-être, dans les matières où je travaillais dans le monde de la recherche, il y avait un mouvement... c'était devenu plus de la recherche plus pécuniaire que la recherche noble en soi. Donc, c'est très important la partie économique des choses, mais quand ça devient le modèle dominant, ça peut vider de sens ce qu'on fait. Donc j'avais décidé, sans faire un jugement particulier, de choisir un autre chemin. Je me suis dit que je vais essayer de...
Vous pratiquiez déjà la musique à cette époque-là?
Oui, toujours, toujours. C'était ma prière de tous les soirs. Dans le garage, je me souviens, toujours des années, c'était ça. En mettant un drap sous les instruments pour que ça ne réveille pas les enfants.
Et puis, vous êtes d'abord installé à La Rochelle, et puis à Poitiers.
Oui, tout à fait.
Où vous vivez aujourd'hui.
Depuis 2008, je suis venu à Poitiers m'installer. Et j'en suis heureux de cette mixité et ce mélange de différentes cultures qui existent à Poitiers.
Et puis, bon, vous travaillez avec d'autres artistes de la région, on les a cités tout à l'heure. Et vous avez créé votre propre structure, c'est la Maison Persane.
Oui, c'est la Maison Persane, c'est une structure un peu qui représente un peu la part des spectacles, la part d'école de musique, des instruments. Mais juridiquement, je travaille avec des structures telles que Crystal Productions ou Tressage Faux Compagnie. Mais toutes les activités autour de la culture persane, c'est sous le nom Maison Persane. Donc vous pouvez découvrir les différentes choses, les stages de rythme, de chant, les différents spectacles sur www.maisonpersane.fr, tout attaché.
Voilà. Donc on trouve vos spectacles, on trouve aussi tous les stages, tous les cours que vous donnez.
Voilà, c'est ça. Il y a une nouveauté par rapport aux cours, c'est que je donne des cours d'instruments à partir de cette année. J'en suis très heureux au sein de l'école de musique Arcadie, qui n'est pas loin du centre-ville quand on va vers la gare. Et là, il y a la proximité des différents profs et notamment de Martine Lecomte et Manolo González. Donc, j'en suis très ravi. Et autrement, je donne des... Hormis le rythme et les choses complexes de cet instrument, je donne, depuis quelques années, il y a un atelier de rythme qui a lieu à la Maison des Trois Quartiers, où c'est plus ouvert, où chacun peut venir avec ce qu'il veut, avec un pinceau, avec un tambourin, avec sa guitare ou sa potanque aussi. Mais on travaillerait sur cette matière invisible qui s'appelle le rythme. Et on crée chaque fois des spectacles qu'on représente pendant en scène passionnément au mois de mai à la Maison des Trois Quartiers.
Voilà, toutes ces informations sur www.maisonpersane.fr. Et oui, l'heure tourne, Fardine Mortazavi. On arrive au terme de cette émission. Puis surtout, je voudrais vous réécouter un petit peu avant la fin de cette émission. On va se quitter maintenant. Oui. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation.
Merci.
Merci à Eric, à la technique aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster sur le site internet de l'Agence régionale du spectacle vivant à l'adresse www.arsv.fr ainsi que sur le site de votre radio préférée. La semaine prochaine, nous parlerons de danse hip-hop. Je recevrai le danseur chorégraphe Amine Boussa de la compagnie Chicrise. À la semaine prochaine et on se quitte avec vous, Fardine. Oui. Vous allez nous interpréter un morceau, Autumn Back. Vous chantez aussi en même temps ?
C'est plutôt un travail de recherche sur le poème de Yadola Royaï qui s'appelle Tan Betan. En persan, Man Tan Totan Mano Totan Tan Chobo Tane Tomi Tanam Tan 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 Tan. La traduction c'est Moi Tan, Tan ça veut dire corps, Moi Tan, Toi Tan, Moi et Toi Tan Tan. Puisque je Tan Tan avec ton Tan, Tan 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 tan. Man tan to tan manu to tan tan chubo tan to mi tanam tan tan tan.
C'était Évoguer la vigne, une émission réalisée, présentée par Sylvie Caquet et proposée par l'Agence régionale du spectacle vivant.